Je vous invite à la prière. Notre Dieu, nous l'avons chanté, à jamais tu es saint. Nous confessons que tu es le Dieu saint, parfait, que tu es le créateur de toutes choses, de l'infiniment grand, de l'infiniment petit. Et nous considérons maintenant ce thème. Appelé à suivre Jésus, où tu nous appelles à te suivre. Alors que nous entrerons dans ce thème ce matin, nous t'invitons, Saint-Esprit, à faire ton œuvre dans nos vies et dans nos cœurs, afin que nous puissions répondre à cet appel à te suivre de manière la plus adéquate possible. En ton nom, Jésus. Amen. Ce matin, le thème de l'année, nous lançons ce thème de l'année appelé à suivre Jésus. Alors, pourquoi ce thème ? Après avoir cheminé ensemble en 2025 avec le thème de... Porteur d'espérance. Porteur d'espérance, voilà. Ça vaut la peine. En 2026, on souhaite aller un peu plus loin. Nous avons pu cheminer avec ce thème porteur d'espérance. Nous avons pu découvrir ou redécouvrir l'espérance chrétienne que Jésus va revenir, le retour glorieux de Jésus et la réalité glorieuse à laquelle nous sommes invités à participer, le royaume éternel et parfait avec lui. Nous avons aussi été appelés à transmettre cette espérance plus loin. Et pour 2026, nous souhaitons nous arrêter sur appeler à suivre Jésus. Parce que l'espérance, c'est quelque chose qui est devant, qui peut déjà se vivre maintenant. Mais maintenant, on est à la suite de Jésus, appelé à suivre Jésus. Et qu'est-ce que ça veut dire, appeler à suivre Jésus ? Alors, j'attends pas de réponse, parce qu'on aura une année pour le découvrir ensemble. Et tout au long de cette marche, nous allons nous arrêter sur le serment sur la montagne, le discours principal de Jésus, la plus grande section des paroles de Jésus qui sont répertoriées dans la Bible. Sermon que nous retrouvons en Matthieu 5, chapitre 5 à 7. Ce matin, je ne vais pas parler du sermon sur la montagne. C'était une mise en bouche. C'est à partir de la semaine prochaine qu'on commencera à entrer dans le vif du sujet. Ce qui m'intéresse ce matin, c'est de voir ce qui se passe avant le sermon sur la montagne. Ce qui se passe avant est très intéressant et donne tout le sens nécessaire à ce discours de Jésus. Et je vous invite à lire Matthieu 4, à partir du verset 18 jusqu'à Matthieu 5, verset 2. Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit deux frères. Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai des pêcheurs d'hommes. Et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Il alla plus loin et dit aux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans une barque, avec leur père Zébédée et qui réparait leurs filets. Il les appela et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Encore heureux qu'ils aient laissé la barque au papa. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa réputation gagna toute la Syrie. Et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des épileptiques, des paralysés, et il les guérissait. Des grandes foules le suivirent, venues de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de l'autre côté du Jourdain. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner. Il dit, jusqu'ici, la parole de Dieu. Nous poursuivrons la semaine prochaine. J'aime ce passage parce qu'on voit le début du ministère de Jésus. On voit le début de son ministère public et sa renommée qui grandit. Matthieu prend soin de nous couvrir toutes les régions géographiques, la Galilée, la Décapole, Jérusalem, la Judée et même de l'autre côté du Jourdain. La renommée de Jésus grandit, des miracles sont opérés. Et certainement qu'il y a des attentes qui se font sentir aussi. Parce qu'à cette époque-là, Israël vivait sous l'oppression romaine et il y avait une forte attente messianique. Les Juifs attendaient quelqu'un qui vienne les libérer de l'oppresseur romain. Alors quand on voit un bonhomme comme ça qui accomplit des miracles, on se dit, ben, c'est lui qui va nous libérer du pouvoir des Romains. Il y a certainement des attentes qui se font sentir sur Jésus. Et face à ces attentes, il y a peut-être aussi le besoin pour Jésus de clarifier sa mission, de mettre juste les choses au clair. Jésus annonce le royaume de Dieu. Il inaugure ce royaume. Et avec ce sermon sur la montagne, il va s'employer à expliquer qu'il y a un autre royaume que cette terre. Un royaume qui est gouverné par la justice, par la droiture et par l'amour. Cet autre royaume vient cohabiter avec notre monde. Et finalement, quand il invite ses disciples à le suivre, il les invite en fait à devenir citoyens de ce royaume. Mais qu'est-ce que ça veut dire participer au royaume de Dieu? Finalement, c'est quoi être un disciple? Réfléchissez, j'attends pas de réponse. C'est quoi être un disciple? Jésus n'est pas forcément la personne que les gens attendaient. On attendait quelqu'un, un chef militaire, qui vienne libérer les Juifs du pouvoir romain. Et Jésus propose un discours assez pacifique, un nouveau modèle de société fondé sur des valeurs du royaume de Dieu. Tout ce discours va nous dire qu'est-ce qu'un citoyen du royaume de Dieu? Le sermon sur la montagne va parler de la personnalité du chrétien. Qui est-ce qu'on doit être en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus? Ce discours va nous parler de la spiritualité d'un disciple. Et finalement, quel est l'engagement du disciple dans le monde? Voilà tout un programme. C'est pour ça qu'on prend une année pour le faire. Finalement, ce discours de Jésus va toucher notre manière de penser, notre manière d'être, notre manière d'agir et notre piété. Alors c'est intéressant de voir ce qu'il y a avant ce discours-là. Parce que là, j'ai fait que faire la mise en bouche, une petite introduction pour faire envie. Comme ça, dès dimanche prochain, on attaque le vif du sujet. Mais je crois qu'il ne faut pas passer à côté du passage d'avant. Et cet appel des disciples. Jésus a appelé ses disciples. Il leur a dit « Suivez-moi ». Le sermon sur la montagne n'est pas simplement un bon discours de morale. On l'entend souvent en philosophie, c'est un super discours de morale, probablement peut-être même le meilleur. Mais en tant que chrétien, moi je crois davantage que c'est plus qu'un traité de morale. C'est même une posture à adopter. C'est celle d'être en marche à la suite de Jésus. Jésus nous appelle ce matin, est-ce que tu es prêt à me suivre? Alors personnellement, c'est un appel où j'ai grandi d'une famille chrétienne, j'ai toujours dit oui à cet appel-là, et même avec une certaine conviction, et je le redis encore ce matin, oui, je suis prêt à suivre Jésus. Mais en préparant ce message, je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose de plus à faire que de simplement dire oui. Il y a une part de choix, il faut se positionner. Est-ce que oui, je suis prêt à suivre Jésus ou non? Mais si je suis prêt à suivre Jésus, qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Alors j'aimerais illustrer ça avec une image. Quand Jésus nous appelle à le suivre, c'est comme s'il nous invitait à participer avec lui à découvrir les joies de la rando bivouac. Il y a Arthur au fond qui est un spécialiste. La rando bivouac, ce qu'il faut, c'est de la simplicité, faire confiance dans son matériel, c'est partir à l'aventure. Alors imaginez que Jésus maintenant vous invite à une rando bivouac. Avec quel bagage est-ce que vous souhaiteriez entreprendre cette aventure ?
Est-ce que ça serait celui-là ? Numéro 1. Ou ça serait avec celui-là. Waouh.
Lequel?
Qui prendrait celui-là? Ouais. Viens, viens le peser, puis je te repose la question après. Ça va? Jusqu'au Molandru. C'est bon.
On n'est pas tous faits de la même manière. Non, j'ai mis tous les gros bouquins de théologie et je suis content qu'ils me servent enfin à quelque chose. Avec quel bagage est-ce que vous voulez suivre Jésus? Alors oui, c'est un choix, c'est dire oui. Mais ensuite, suivre Jésus, c'est adopter le bon bagage pour effectuer cette marche. Et ça peut prendre du temps pour faire son sac à dos correctement. Arthur, toi qui es devant moi, je sais que tu as pratiqué de la rando bivouac sur bien quelques jours. Ton sac, tu ne l'as pas fait en une fois. Ça a pris du temps. Tu as dû tester du matériel, revenir en arrière, ou tu as regardé sur un forum tous les trucs les plus chers qu'il y avait, puis tu as commandé ça. Il y a de ça. Faire son sac, ça peut prendre du temps. C'est de la réflexion. Quel matériel est-ce que je vais prendre ? Quand on va partir marcher puis qu'on dort sous tente, chaque gramme compte. Si je me dis, allez, je prends ça au cas où, c'est pas très lourd, mais le au cas où, plus au cas où, plus au cas où, ça fait vite quelques kilos dans le sac à dos. Alors en optimisant un petit peu, en réfléchissant, en optimisant son matériel, en renonçant aussi à des choses à prendre, on arrive à un poids plus léger et c'est beaucoup plus facile de marcher avec. Alors ça vous a fait rire quand j'ai amené cette valise. Mais quand Jésus nous appelle à sa suite, parfois nous répondons oui, puis on est comme ça. Oui Jésus, j'arrive, je te suis. Faut pas que je la casse. Sinon, ma femme ne va pas être contente. La petite, c'est la mienne, puis la grande, c'est la sienne. Quand Jésus nous appelle à sa suite, on prend parfois toutes nos valises avec. Et nos valises contiennent parfois des choses qu'on a choisi de mettre dedans. Nos valises contiennent aussi des choses que nous avons héritées de nos parents, de nos arrière-grands-parents, des héritages. Nos valises contiennent aussi des choses subies. Nous n'avons pas choisi, mais dans notre parcours de vie, il est arrivé quelque chose et ça finit dans la valise. Dans nos valises, il pourrait y avoir de l'idolâtrie, peut-être un objet, au hasard un smartphone, qui peut prendre tellement de temps, qui prend même la place de Jésus. Mais ça peut être aussi des objectifs de vie qui prennent tellement de place, plus de place que l'appel de Jésus à le suivre. Dans nos valises, il peut aussi se trouver des choses, un endroit de notre vie, une période de notre vie que nous cachons à Dieu. Cette période-là, je n'ai pas envie de la montrer. Parce que soit j'en suis peu fier,
soit j'ai honte. Ça peut être un abus. Il peut y avoir de la honte et on cherche à cacher ça à Dieu. Un traumatisme, un deuil. Non, Jésus, je n'ai pas envie de t'inviter dans cette situation de vie. C'est à moi. C'est dans ma valise. Ça peut être un pardon qu'on refuse de demander ou d'accorder. Ça peut être des sujets qui touchent notre sexualité. La pornographie, par exemple. Alors ça, je n'ai pas envie d'inviter Jésus dedans. Je le mets dans la valise. Et ça, c'est l'équivalent d'un gros bouquin de théologie. Ça peut être plein de questions sur notre genre. C'est quoi être un homme, c'est quoi être une femme, que nous n'osons pas aborder franchement et que nous mettons alors dans la valise. Parce que Dieu, on n'a pas envie de lui montrer ça. Ça peut être aussi plein d'autres choses. Quand Jésus nous a... Ouvrons ta valise ensemble, parce que moi j'ai envie de te donner un sac à dos pour la marche que j'ai envie de faire avec toi. Non pas qu'il faille mettre de côté toutes ces choses, ça peut prendre du temps de faire un bon sac de bivouac. Mais simplement les ouvrir, les exposer à Jésus. Voilà ce qu'il y a dans ma valise. Il est moins lourd, il fait moins de bruit. Jésus est aussi mort à la croix pour décharger nos valises. Il a tout fait pour que nous puissions aller vers lui en disant « Mais Seigneur, j'ai envie de te suivre, mais comme ça, ça ne va pas le faire. » Est-ce qu'on peut regarder cette valise ensemble, voir ce qu'il y a dedans, et viens visiter les zones d'ombre de ma vie et aide-moi à avoir ce sac de bivouac. Alors, suivre Jésus, ce n'est pas juste répondre à un appel, oui ou non. Ça, c'est un bon début de pouvoir se positionner, mais c'est aussi débuter une démarche. Et avant de partir en bivouac, on doit faire son sac. Je ne peux pas dire je vais faire mon sac avec ce que je trouve en cours de route. Ça demande une préparation. Oui, je veux partir en rando, mais je vais passer un moment à faire mon sac, à réfléchir, qu'est-ce que je vais prendre, qu'est-ce qui me sera utile, qu'est-ce qui ne sera pas utile. Donc suivre Jésus, ce n'est pas dire oui et courir, c'est aussi prendre le temps de faire sa valise. De prendre le temps où avec son aide, nous pouvons échanger nos valises pour avoir un sac à dos. Suivre Jésus, ça commence par nous préparer à avoir le bon bagage. Alors j'aimerais vous proposer de réfléchir à cet appel de suivre Jésus. Comme si Jésus, comme ses disciples, il vous disait « Mais est-ce que vous êtes prêts à me suivre ?» Et peut-être que vous avez dit « Oui » il y a longtemps. Peut-être que vous n'êtes pas encore positionné. C'est tout à fait OK. Mais considérons cet appel. Et si nous sommes sûrs que nous avons dit « Oui » et si nous redisons « Oui », alors considérons nos bagages. Avec quoi est-ce que je vais marcher avec lui? Est-ce que j'ai besoin de déposer quelque chose? J'aimerais vous laisser deux questions. La première, le positionnement. Qu'ai-je envie de répondre à l'appel de Jésus à le suivre? La deuxième question serait... Quels sont mes bagages trop lourds? Qu'est-ce qui est lourd et qui m'empêche d'avancer? Quelles sont les zones d'ombre de ma vie que je n'ai pas encore ouvert à Dieu ou que je ne veux pas ouvrir à Dieu pour qu'il les visite? Alors, à l'issue de ce culte, il y aura deux équipières de prière qui seront disponibles à la chapelle. Si vous avez besoin de déposer quelque chose ou de vous engager dans cette marche, Annette et Marianne seront à votre disposition pour prier pour vous, vous accompagner aussi dans un début de démarche. Alors tout ne se règle pas maintenant en disant « oui, c'est bon, alors je vide ma valise, tac », ça peut prendre du temps. Mais si vous souhaitez ce matin commencer une démarche, deux personnes seront à la chapelle
pour vous accompagner, pour prier pour vous, avec vous. Et je crois qu'aussi en débutant cet appel, Jonathan, tu peux t'approcher déjà. Oui, il y a une part de positionnement et d'engagement. Mais je crois aussi important en tant qu'Église, avant de cheminer avec ce thème appelé à suivre Jésus, c'est de pouvoir vivre, nous positionner ensemble en tant qu'Église dans la prière. Je crois que je n'ai pas besoin d'en ajouter plus, tu prends le relais.
Merci Johan et bonjour à chacun. Je viens avec ma valise. Pour effectivement confirmer ce que Johan dit, c'est donc la deuxième année qu'avec le conseil pastoral, on se sent appelé à consacrer une année, pas tout à fait, une période de temps à un sujet, à une thématique de rechercher Dieu dans cet appel-là. Je vois plusieurs jeunes qui sont là devant, peut-être de faire voilà le camp de ski. Quand j'étais au groupe de jeunes, moi je voyais toujours la grande différence entre une semaine en camp. Bon, il y avait toute la dynamique relationnelle aussi, mais il y avait un thème, il y avait un sujet. Et pendant tous les soirs où il y avait vraiment l'orateur ou les orateurs qui venaient parler, on approfondissait une thématique. Et à la fin de la semaine, on avait l'impression qu'on avait fait un grand bout de chemin dans ce sujet-là. C'était la grande différence avec les soirées du vendredi où ben, on passait d'un sujet à l'autre ou alors on essayait de suivre, mais il y avait moins d'intensité. On va pas pouvoir reproduire cette même intensité sur l'année 2026, mais c'est un peu cet esprit-là de consacrer une période de temps à suivre Jésus dans ce qu'il veut nous dire de particulier. Et comme l'année dernière, on aimerait vous inviter à rechercher l'Éternel ensemble avec nous dans cette période de début de l'année. De façon assez pratique, dans la prière, dès ce soir et jusqu'à mardi, il y aura des plages horaires consacrées à la prière, ici même dans la chapelle, à 20h, 6h30 pour les courageux avant le début de la journée, midi et 20h. Il y a de temps en temps du monde qui est là, mais le but n'est pas d'avoir un temps de prière organisé avec quelqu'un qui conduit ce moment de prière. C'est un lieu, un appel où vous, chacun d'entre vous individuellement, vous approchez de Dieu pour discerner, demander ce que Dieu veut nous dire en tant qu'Église durant cette année avec cet appel à le suivre. Alors pour nous aider, nous conduire, il y a un petit guide de prière qui a été préparé, qui est disponible dans la chapelle, avec un passage de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, un psaume. C'est un guide voilà, à prendre ou à laisser. C'est pas forcément ça que Dieu mettra sur votre cœur, pas de problème. Si vous recevez quelque chose, il y a la possibilité de l'inscrire, comme l'année dernière, dans un carnet à disposition dans la chapelle. Et nous, le conseil pastoral, on va reprendre tout cela pour nous conduire aussi tout au long de l'année, pour tenter de saisir et discerner comment Dieu veut nous appeler à le suivre en 2026. On aura le sermon sur la montagne pour nous y conduire, et puis tous ces temps de vie et de prière communautaire. Et puis mardi, à 20h, ici même, Interface, notre rencontre de prière mensuelle, où on va se rassembler encore une fois autour de cette réalité-là que nous sommes appelés à le suivre. Voilà, je vous invite, même si c'est pas ici, physiquement dans la chapelle, à accueillir cet appel-là et à le faire résonner dans vos vies de prière ces prochains temps. Et pourquoi pas nous le faire aussi remonter, partager ce que vous recevez très volontiers. Merci Johan déjà pour ce lancement et cette magnifique prédication. Que Dieu nous bénisse et nous conduise dans cet appel. Amen.